Le monde est à nous.
Le monde est à moi.
Le monde est à toi.
Le monde est à lui.
Le monde est à elle.
Le monde est à vous.
Le monde est à eux.
Le monde est à nous.
Téléphone rose. Téléphone rose.
On m'a dit, je chuchote, j'ai chuchoté.
Alice Milo, Pauline Mocor.
Bienvenue à toi, bienvenue à vous.
Le monde est à nous.
Et même que c'est pour de vrai.
Ils sont 20 jeunes, ils ont entre 18 et 25 ans et ils ont fait un rêve. Celui d'un monde magnifique où les femmes et les hommes partageraient tout de manière égalitaire.
Et ce rêve devient réalité cet été. Pour inventer le monde de demain, on embarque tous à bord d'une fusée.
Rouge la fusée.
Et chaque dimanche, on se donne rendez-vous, même heure, même endroit.
Sur RFI.
Dans le cockpit, il y a Victor qui gère les manettes et ses deux copilotes.
Salut, moi c'est Pauline.
Salut, moi c'est Alice.
Et tous les trois, on est là pour guider l'équipe dans cette aventure radiophonique.
Mais le monde est à nous, c'est aussi toi qui nous écoutes.
Et tu peux nous suivre.
Tu dois nous suivre.
Sur les réseaux sociaux.
Alors rejoins-nous, on décolle. Aujourd'hui, pour la dernière de l'été, Le Monde est à nous refait le monde avec vous.
C'est bien connu, hein, les jeunes ont toujours des envies de révolution et d'utopie. Et comme les jeunes de l'équipe ont cogité tout l'été sur l'art contestataire, les migrants, les petits boulots, les questions de genre, les discriminations, alors forcément ça leur a donné des idées pour imaginer une nouvelle société.
Lors de notre dernière réunion pour préparer l'émission, ils nous ont dit « Sur Terre, ça sent le roussi ». Alors c'est décidé, on plaque tout et on part sur une autre planète.
Ouais, mais la question, c'est pour aller où ?
Eh ben, t'as pas entendu parler de 2016 HO3 ?
Non, c'est quoi ?
C'est la nouvelle astéroïde que vient de découvrir la NASA. Et les jeunes l'ont rebaptisée RFUS.
Mais ils ont un plan ?
Ouais, ils ont affrété la fusée rouge RFI et le décollage est prévu dans une heure, pile. Alors t'en dis quoi ? Tu viens avec nous ?
Attends, c'est pas un peu précipité ton histoire ?
Oh, c'est toujours pareil avec toi. Écoute, ce que je te propose, c'est que pendant que tu réfléchis, on réunit le conseil des ministres extraordinaires. Comme ça, ils présentent leur proposition devant vous, chers auditeurs, et aussi devant nos deux vénérables sages qu'on a convoqués pour leur demander conseil.
J'intronise nos deux vénérables sages, l'écrivain Rachid Santaki, auteur de Polar. Il a publié La France de demain, un manifeste dans lequel il fait des propositions pour l'avenir. Et la dessinatrice Pauline Aubry, Refaire le monde, elle a testé et elle le raconte dans Les Mutants, sa BD sur les adolescents.
Tous deux ont grandi dans les années 80, ils sont experts en jeunesse, en rêve, en critique sociétale et ils nous font l'honneur d'être ici. Pour nous donner leur avis, est-ce que partir pour RFUS, c'est un bon plan ? This is ground control to Major Tom.
Pauline Aubry, Rachid Santaki, nos deux vénérables sages, mes hommages.
Autour de la table du conseil, nos ministres extraordinaires, Calypso, Philippine, Thomas, Fanny, Loukaina, salut à vous.
Salut. Salut.
Tout de suite, on retrouve Kaina qui a embarqué il y a quelques jours à bord de notre vaisseau spatial pour une mission d'exploration de RFUS. Et nous sommes actuellement en liaison satellitaire avec elle.
Allô RFUS, ici la Terre. RFUS, vous nous recevez ? À vous ?
Allô la Terre ? Ici RFUS, je vous reçois 5 sur 5. À vous ?
Alors Kaina, est-ce que tout va bien ?
Oui, je viens d'atterrir sur RFUS. Je vois déjà des choses à travers le hublot de ma fusée. Il y a beaucoup de sable, on dirait que les nuages sont roses. Je vois des papillons, plein de papillons, ils sont toutes les couleurs. Et au loin, il y a un arc-en-ciel. Attendez, je sors de ma fusée. C'est dingue ! J'ai l'impression de peser 10 kilos de moins. Je me sens tellement plus légère. Un tout petit pas me fait faire un bond de géant. Attendez, il y a quelqu'un qui me parle. Je vous jure, j'entends quelqu'un dans ma tête. C'est une fourmi, les gars, une fourmi qui me parle ! Elle me dit que sur RFUS, les animaux et les humains peuvent communiquer par télépathie et que je suis la première terrienne à mettre les pieds ici. Pour l'instant, il n'y a que des animaux.
Mais c'est dingue, mais qu'est-ce qu'elle te dit, la fourmi ?
Bah, elle se propose d'être mon guide pour mon séjour. Je la prends dans ma main. C'est bizarre, on dirait qu'il y a un bouton sur son front. Je vais appuyer pour voir. Oh là là ! La fourmi est en train de grandir ! Elle fait la même taille que moi, maintenant ! Bon, ben, je la suis. On arrive devant une rivière. C'est étrange. L'eau n'est pas bleue. La fourmi me dit d'y tremper mon doigt. Vous voulez entendre la meilleure ? C'est du miel. C'est une rivière de miel. Fourmi, t'arrêtes pas. Continue de me guider, j'ai besoin de toi.
Kaina, tout va bien ?
Excusez-moi, je parle avec la fourmi. Vous voulez rire ? Il y a des arbres. Leurs troncs sont tout dorés et leurs feuilles de toutes les couleurs. La fourmi me dit que les feuilles sont comme des tapis volants et qu'elles s'adaptent à notre taille pour nous transporter à travers Erephus. Elle me propose de monter. C'est fou, je peux toucher les nuages et je peux aussi les manger. Ils sont à la barbe à papa. On redescend. Elle me présente ma maison pour le séjour. Attendez, je crois qu'une porte s'ouvre dans le tronc d'arbre. C'est un ascenseur à l'intérieur même. On est en train de monter là. La fourmi me dit que je suis invitée à dîner chez sa famille ce soir. Les portes s'ouvrent. J'en crois pas mes yeux. Je suis dans une cabane géante. Désolée les gars, mais c'est trop cool ici. Finalement, je crois que je vais rester sur Erephus. Rejoignez-moi, rejoignez-nous sur Erephus.
Fanny ?
Alors, Pauline Aubry, Rachid Santaki, ça vous donne envie notre nouvelle planète ?
Pauline Aubry.
Une planète avec une nature gourmande, j'ai l'impression que certains ont faim ce matin.
Et vous, Rachid ?
Je sais pas, le miel, je kiffe pas trop, donc faut voir. Ah, c'est oui, autre chose.
Alors, vous avez pris un objet avec vous pour l'emporter sur notre nouvelle planète Erephus, c'est quoi ?
Alors moi, j'ai pris un petit morceau de ma maison, en fait. Il faut que je vous la décrive. En fait, c'est...
Moi, c'est une boîte en 3D. Hein.
C'est une boîte en 3D, donc c'est une boîte profonde. Et à l'intérieur de laquelle, il y a le décor de ma maison à Paris. Avec, bon, j'ai de la chance, j'habite dans un petit jardin. Et dedans, il y a mon chien qui est mort, mais bon, il est encore là, dans la boîte. Et puis mes enfants qui jouent et mon mari au bout qui lit... un petit bouquin, et puis à gauche, ma voisine qui est chanteuse d'opéra.
Et c'est vous qui l'avez fabriqué?
Et c'est, non, c'est un de mes amis qui est auteur de BD, qui est argentin, qui s'appelle José Cuneo, et qui fait, en fait, des boîtes, et on peut lui commander ce qu'on veut, et ça permet de garder une trace d'un endroit qu'on aime bien, d'une scène de vie, de, voilà. Donc moi, j'ai décidé de faire ma maison, parce que j'habite dans un endroit qui s'appelle la Villa Poissonnière, qui est une petite rue fermée avec des jardins.
Dans un petit paradis.
Petit paradis.
En tout cas, vous n'avez pas envie d'être trop dépaysé puisque vous emmenez votre maison sur Erephus. Et vous, Rachid Santaki?
Ben, moi, je voulais pas être dépaysé avec ces fourmis qui parlent par télépathie, qui communiquent par télépathie. J'ai amené des gants de boxe. Comme ça, je vais développer la boxe sur cette nouvelle planète. Je me suis dit, comme je suis un passionné de Muay Thai, ben, pourquoi pas développer ça sur cette nouvelle planète?
Ils seront peut-être.
Après, on fera pas que de la boxe, hein, ne vous inquiétez pas. Dis-le à la fourmi.
Ils seront peut-être, oui, ils seront peut-être à la taille de la fourmi, justement.
Ouais.
Vous l'avez compris, en tout cas, on est les premiers à débarquer sur Erephus. Hein, tout est à imaginer, donc forcément, on se demande par quoi on commence. Et on s'est tous mis d'accord, et on l'a compris avec la revue de presse de Kaina, le plus important, hein, c'est la bouffe.
Et donc la parole est à Calypso, notre ministre de la bouffe, qui a une proposition à faire pour la nouvelle planète.
Oui, alors moi je propose qu'on mange des insectes. C'est bourré de protéines, et leur élevage produit beaucoup moins de gaz polluants que les élevages de porcs et de vaches. Donc, pour tester les insectes, je suis allée dans un restaurant qui sert des insectes avec Maude. C'est dans le 5e arrondissement de Paris. Ça s'appelle la Lucha Libre. Présentation de la carte avec le tenancier.
Le scorpion est sympathique. Carapace un peu dure, mais c'est un goût de crabe fumé. C'est relativement intéressant. Le grillon est sympa. Il a pas spécial. On peut pas dire qu'il a un goût très apparent, mais il laisse un arrière-goût fumé. Sympathique aussi. Après, il y a le ver de farine qui, pour le coup, a un goût de curly, quoi, sur le principe. Je dirais un chipster qui a pris un petit peu l'humidité, quoi.
Ça ressemble à quoi, le ver de farine ?
Le ver de farine, des asticots pour la pêche, pareil, mais en sec, quoi.
Pour vous, dans le futur, il y aura exclusivement des insectes ou pas ?
Exclusivement, non, mais je vois bien un futur où la viande serait quasiment plus mangée, remplacée par les insectes. Du tout moins sur le plan protéines, ça serait un peu plus faisable. Il faut savoir qu'en moyenne, l'équivalent d'une cuillère à soupe d'insectes équivaut sur le plan protéines à un steak de 150 grammes.
Mais là, en ce moment, il y a peu de personnes qui mangent des insectes. Alors, c'est quoi les obstacles à surmonter pour que les gens mangent plus d'insectes ?
À mon avis, il y a surtout un aspect visuel. Parce que bon, il est vrai que la plupart des gens se fie à l'aspect avant d'y goûter. Mais je suis convaincu qu'on ferait goûter dans le noir, il y aurait beaucoup moins de barrières. Ça, c'est une évidence catégorique.
Calypso.
D'ailleurs, j'ai apporté des insectes. Vous goûtez ?
Alors, vous avez des grillons, criquets, vers de bambou, vers à soie.
Donc, on vient de vous apporter un petit plateau avec donc un petit mix d'insectes. Est-ce que ça vous tente de goûter ?
Alors moi j'avais déjà goûté, mais alors juste c'était bien cuisiné.
Un petit peu de sel, non ?
Pauline se lance. Alors, c'est bon ?
On dirait des chips, en fait.
Ouais, il a dit un peu humide.
Vous seriez prêt à en manger souvent ?
Des insectes ? Mm-hmm. Non, franchement, j'ai jamais kiffé ça, donc bon. Après, je crois qu'on aura un problème en termes de protéines, donc peut-être que je serai obligée si je suis encore en vie.
Et vous, Pauline, est-ce que si c'était notre principale nourriture, vous seriez prête ?
Bah, je trouve ça un peu dommage de manger plus que ça, parce qu'il y a plein de trucs qui sont bons, mais bon, c'est-à-dire que ça n'a pas un grand intérêt, c'est pas dégueu, mais c'est pas...
En même temps, t'as tout mangé, Pauline. Je suis en train de remplir mon buffet d'insectes. Ah non, j'en veux pas, non, merci.
Et comment on pourrait faire pour les rendre plus appétissants ?
Et ben moi, j'étais allée dans un resto dans le 18e qui s'appelle le Festin Nu. Et en fait, le gars, il faisait un espèce d'assortiment. C'était un peu gastro, quoi. Et donc, il y avait toute une petite sauce à côté avec de la mozzarella, un peu de pesto et tout. Et
pour
du coup,
camoufler
ça rendait le truc meilleur. Ouais, c'était un peu plus intéressant, quoi.
Alors moi, je suis pas d'accord.
Ah, nous avons Lou, notre ministre de l'Agriculture, qui tape du poing sur la table.
Oui. Moi, je pense qu'il ne faut pas manger d'êtres vivants, insectes compris. C'est mathématique. Pour nourrir une vache, il faut cultiver des dizaines d'hectares de céréales. Et au final, la vache, elle peut nourrir qu'une dizaine de personnes, alors que les champs de céréales, eux, ils auraient pu en nourrir des centaines. Du coup, en étant vegan, bah, on règle le problème de la faim dans le monde.
Et ça veut dire quoi exactement, vegan, Lou ?
Manger vegan, ça veut dire ne manger aucun produit issu de l'exploitation animale, que ce soit de la viande, du poisson, des produits laitiers ou des œufs. Moi, perso, je suis vegan depuis 2 ans. Et mon problème dans le monde aujourd'hui, c'est que j'ai un mal fou à faire mes courses.
Et oui, d'ailleurs, Lou, il y a quelques jours, je t'ai accompagnée faire tes courses dans un petit supermarché terrien. Et c'est clair que le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était bien la galère.
Alors, on vient de rentrer dans le supermarché. Il faut que je fasse mes courses.
Alors là, on arrive devant le patrimoine gastronomique français. J'ai nommé le fromage. J'imagine que tu vas pas t'arrêter.
Absolument pas, ça m'écœure d'être devant. Une fois que je suis allée voir la composition du lait de vache, j'ai plus du tout eu envie d'en reprendre après.
Pourquoi ?
Alors, en fait, dedans, il y a beaucoup de pus. Et il y a aussi une hormone que la vache crée, notamment pour que son petit reste auprès d'elle lorsqu'il vient au monde. Du coup, il y a certains médecins qui pensent que ça peut aussi signifier une certaine dépendance vis-à-vis des produits laitiers. Tout ça, ça m'a un petit peu répugnée. Et puis ça, plus le traitement animal, je veux dire, tout simplement les abattoirs où tu vois qu'on pend des vaches par les pieds alors qu'elles sont encore vivantes. C'est une barbarie monstrueuse. Alors là, on arrive aux fruits et légumes. C'est l'endroit... C'est presque comme une maison pour moi. Je vais prendre des vaches plates parce que j'adore ça.
Mais du coup, est-ce que ton régime alimentaire, il se compose uniquement ou essentiellement de fruits et légumes ?
En tout cas, l'été, ouais. Du riz, beaucoup, quinoa, j'ai pas envie d'être cliché, mais le quinoa c'est bon. Les pâtes c'est un peu plus problématique parce que... Alors, normalement les pâtes c'est safe, mais quand même par exemple. En fait il y a un code, c'est-à-dire que s'il y a un N dans le numéro du lot, ça veut dire qu'il y a des œufs. Tu vois là par exemple, il y a un N dedans, ça veut dire qu'il y a des œufs. Et tu vois, c'est ça que je trouve génial, c'est que ça peut contenir de l'œuf. C'est que ça contient peut-être pas de l'œuf, mais ça peut contenir de l'œuf. Tu vois, encore une fois, c'est un manque d'information qui est quand même... Bah vachement relou, parce que c'est bon les pâtes et que je suis étudiante, donc les pâtes ça devrait être ma principale nourriture. Mais oh.
Donc du coup, tu peux me résumer ce que contient ton panier, après 25 minutes de shopping ?
Pas grand chose en toute honnêteté, c'est-à-dire j'ai des pêches plates, des figues séchées, de l'eau de coco et en gros des yaourts au soja.
Mais t'es heureuse en étant végane et tu manges bien ?
Voilà. Moi, je pense que être vegan, c'est comme, je sais pas, comme si t'avais une nouvelle parabole portée vers un nouveau monde, tu vois. Enfin, pour le coup, c'est vraiment ça. Parce que tu découvres tellement de nouvelles choses, tellement de nouveaux produits, et puis meilleur pour toi, la planète et les animaux, quoi. Donc, go vegan.
Lou, notre ministre de l'Agriculture vegan.
Oui, et pour vous convaincre, je vous ai rapporté un plat vegan. Donc, c'est un gâteau au chocolat. Donc, c'est un moelleux, juste là. Et est-ce que bah, vous voulez bien goûter ?
Et il y a aussi...
Un carotte cake.
Carotte cake, vegan aussi.
Il est bon déjà le gâteau ?
Ah. Franchement, Lou, il est bon, mais il vaut pas mon gâteau au chocolat avec du beurre. Mais ça va, c'est bon, c'est pas mal.
J'ai le cœur brisé.
Ça se mange.
Mais du coup, il y a du chocolat dedans ?
Oui.
Et du coup, à la place du beurre ou des œufs, ils mettent quoi ?
De la compote de pommes.
Ah.
Le secret de fabrication. La ouais. question, est-ce que vous préféreriez manger des insectes ou vegan sur RFUS ?
Ou une troisième meilleure idée qui vient de votre petit cerveau de vénérable sage, de votre grand cerveau ?
Non,
il n'y a pas de bonne réponse. Hein.
Une proposition ? J'ai fait une petite détox il y a un mois et demi, avec j'avais pris du poids, Il s'appelle Erwan, je me souviens plus de son nom de famille. Il a sorti un livre, c'est un ancien
Erwan Manteour.
Voilà, merci.
Un coach.
Exactement, coach. Et puis qui était cycliste, qui a dérapé, enfin qui a eu des dérives. Et puis après, il a décidé de se reprendre en main. Son livre est super intéressant. Et puis pareil, les menus qu'il propose, par contre, c'est féculents, légumes, viande, mais c'est vachement équilibré.
La viande est très limitée, c'est beaucoup de protéines.
Ouais,
végétales.
Limitée, puis pas de mélange, pas de le soir éviter les féculents. Enfin, c'est vachement équilibré, donc ce serait bien d'emmener le livre sur RFU, c'est de le donner aussi aux fourmis. Je sais pas si les fourmis elles sont surpoids, tu me diras, Kaina.
Tu les as
imaginées au
bac
en train de se tuer avec des gros
menus.
Pardon, ouais, équilibré.
Alors moi, je sais pas si j'ai une proposition. Ce que je trouve compliqué dans le mode de vie vegan, c'est que bah, dans notre société, ces prises de tête d'essayer de se faire son menu, c'est beaucoup plus simple d'être paresseux et de manger sans réfléchir. Parce qu'en fait, on va avoir des carences si on mange vegan. Il va falloir compenser en mangeant des pois chiches ou en mangeant machin. Du coup, moi qui suis un peu feignasse, j'aimerais bien être vegan, mais ça me demande trop de...
C'est compliqué.
Mais on peut faire un compromis et devenir tous végétariens.
Alors après, moi, j'y pense, mais bon, le problème, c'est qu'en France, il y a vraiment trop de trucs bons auxquels il faut sacrifier, quoi.
Comme quoi?
Saucisson, foie gras, ben voilà. Après, moi, je mange pas de bébés animaux, de trucs comme ça. J'ai l'impression qu'en fait, en France, on compose un peu notre petit...
De bébés animaux, vous voulez dire, par exemple, de l'agneau?
Pas de veau, pas d'agneau, pas de lapin. Bon, c'est pas des bébés, mais c'est mignon. Enfin, voilà, en fait, c'est vrai que j'ai l'impression que dans le monde, en fait, les espèces mignonnes, on va essayer de les préserver, les autres, moins.
Est-ce qu'il va falloir faire des sacrifices sur RFUS? Le monde est à nous. Dans une trentaine de minutes, nous quittons la Terre pour RFUS. Donc, c'est l'astéroïde récemment découvert par la NASA. Pour le moment, seuls des animaux peuplent RFUS. Tout est inventé. Les ministres sont réunis en conseil extraordinaire pour soumettre leurs idées du monde de demain à nos deux sages.
Et alors déjà, tous les ministres se sont mis d'accord pour ne pas manger d'insectes sur RFUS. Mais pour manger, il faut échanger. Alors, la parole est à Thomas, notre ministre des échanges.
Oui, parce que je pense que le problème number one, c'est celui du fric, et c'est le problème que je voudrais soulever. Par exemple, j'ai plein d'amis qui sont obligés de faire des prêts étudiants, notamment une bonne amie à moi, qui a 22 ans, qui est déjà endettée énormément. Alors du coup, on s'est penché sur la question, et on a trouvé que le troc, ce serait vachement bien. Rachid Santaki, imaginons qu'il n'y ait plus de fric sur RFUS, mais que du troc. Est-ce que ça vous paraît être un modèle économique viable, ou pas du tout?
Le troc, c'est compliqué aussi. Hein. C'est compliqué.
Pourquoi?
C'est une contrainte. Tout à l'heure, Pauline a parlé de s'alimenter de manière saine. C'est compliqué parce que je pense qu'on est dans l'ère numérique, donc faut n'a pas trop le temps de faire attention. Et je pense que le troc, il y a aussi. Je suis pas fan de ça.
Mais dans la France de demain, vous parlez quand même d'échange de services.
Mais attention, faut pas mélanger entre. On est tous acteurs dans la société. On a tous une place. On a tous un apport. Et le troc, pour moi, c'est quelque chose de différent. Venir avec son panier de légumes et qu'est-ce que tu me donnes en échange de services et tout. La société, quand je parlais d'échange et de partage, c'est en fonction de ses compétences. Qu'est-ce que dans un quartier, par exemple, chacun peut apporter? On y participe, on peut pas être dans de l'individualisme. Donc pour moi, c'est pas du troc.
Mais vous avez un exemple qui vous a marqué
De troc?
D'échange de services dans les... Vous citez beaucoup d'associations, d'initiatives dans votre livre. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que vous voudriez mettre en avant?
Je vais donner un exemple assez rapide. Ghislaine, une enseignante retraitée qui continue à s'impliquer à temps partiel à la maison d'arrêt de Rouen. Voilà. Mais ça, c'est des gens qui sont des contributeurs plutôt que
Elle fait quoi là-bas, du coup?
Elle donne des cours aux mineurs et aux adultes aussi. C'est pas du troc, là. On n'est pas dans « je fais ça, qu'est-ce que tu me donnes en échange ?» C'est « je contribue ». C'est plein de petites choses comme ça. Donc, je suis plutôt dans « qu'est-ce qu'on peut apporter ?»
Décollage dans 30 minutes et 30 secondes.
Le monde est à nous et le décollage pour RFUS est imminent. C'est notre nouvelle planète pour un nouveau monde. Vous restez avec nous.
Les ministres Calypso, Philippine, Thomas, Fanny, Lou et Kaina continuent d'interroger nos deux vénérables sages pour imaginer un avenir meilleur. On se retrouve dans 3 petites minutes, juste après le flash et les nouvelles de la planète Terre.
Le monde est à nous. Pauline Maucor Alice Milot.
Le Monde est à nous, c'est tous les dimanches de cet été sur RFI.
L'émission est fabriquée par 20 jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. Et aujourd'hui, comme c'est notre dernière de l'été, on vous a concocté une émission un peu spéciale.
Je dirais même plus, ma chère Alice, un peu spatiale. Dans moins de 30 minutes, nous quittons la Terre pour Erephus, un astéroïde que la NASA vient de découvrir. Et d'après notre éclaireur Kaina, qui est partie en repérage, Erephus semble très accueillante. Pas d'humains, seulement des animaux et une végétation luxuriante. Bref, c'est l'idéal pour inventer un monde nouveau où chacun partage tout avec tout le monde.
Et juste avant le départ, nous avons réuni Calypso, Philippine, Thomas, Fanny, Lou et Kaina. Ce sont les ministres désignés pour inventer les nouvelles règles de notre vie sur Erephus.
Avant de décoller, on s'est réunis en conseil extraordinaire pour recueillir les derniers avis auprès de nos deux vénérables sages, Pauline Aubry, dessinatrice, et Rachid Santaki, écrivain.
Et passons tout de suite à une question cruciale, les rapports hommes-femmes. Philippine, tu es notre ministre du genre et tu as une proposition à nous faire.
Tout à fait, parce que moi j'ai constaté que pas mal de femmes sur Terre en ont marre d'être les seules à être enceintes. Bon, si vous demandez pourquoi, c'est bien simple. L'accouchement, c'est tout de même sacrément pénible. Ensuite, on te culpabilise si t'as décidé de pas allaiter. On te fout au placard quand tu reviens de congé maternité. Bref, j'en passe et des meilleurs. Et du coup, ma proposition pour Erephus, c'est que chaque couple, en fait, puisse choisir qui porte l'enfant, femme ou homme. Peu importe. J'ai donc envoyé mes émissaires sur le terrain, Kaina, Geneviève et Maude, pour un petit sondage auprès des hommes. La question est simple, est-ce que vous, messieurs, vous aimeriez être enceintes ?
Le futur, c'est un bébé qui va naître.
Est-ce que vous aimeriez être enceintes ?
Bah non. Non, parce que moi je suis père. Et j'ai vu ce que j'ai assisté à des accouchements, j'ai vécu par procuration des grossesses, et j'ai absolument pas envie de vivre ça. Les jambes qui gonflent, la gerbe, la souffrance, les nuits difficiles par la suite, parce qu'il faut pas se leurrer, les mamans font quand même beaucoup plus que les papas. Mais vous savez, les hommes sont des égoïstes, et je pense que pour donner la vie, etc., faut être tout sauf égoïste. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, même si... par miracle, on y arriverait, ça matcherait pas parce que c'est pas fait pour les mecs. Hein. Non, mais vous voyez bien comment sont les hommes. Et à peine on se fait un petit bobo, on se roule par terre, on chouine. Donc assumer et la grossesse et toutes les suites de couches, etc. Mais enfin, il y en a à moitié qui décéderaient psychologiquement et peut-être même physiquement, je sais pas.
C'est une très bonne question. Est-ce que je le souhaite ? Personnellement, non. J'ai une fille de 11 ans et j'ai assisté à l'accouchement. Et j'ai pas forcément envie d'être enceinte. On dit souvent avec erreur, on parle de l'esprit maternel. Je pense qu'il y a du vrai et du faux dans cette expression, c'est-à-dire qu'effectivement le fait d'être enceinte développe un rapport plus étroit avec l'enfant. Parce que justement, c'est inscrit dans la chair, c'est inscrit dans le corps, c'est inscrit dans la douleur. C'est un rapport que la femme, elle développe à partir du moment où elle sait qu'elle est enceinte. Et ça dure du coup environ 8 mois, on va dire. Que le père, il a besoin d'être confronté à l'enfant physiquement pour pouvoir commencer à comprendre qu'il est père. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être enceinte pour être proche de ses enfants. Moi j'ai 38 ans, j'incarne une génération justement où le père est présent. Hein. Le père est là, je m'occupe autant de ma fille que ma femme, ça c'est un modèle du passé, donc a priori il n'y a pas grand chose qui peut encore changer par rapport à ça.
Mais le futur ne s'oublie pas.
Philippine, notre ministre du genre.
Oui, bah Rachid Santaki, je vous pose la question, vous auriez le courage d'être enceinte ?
Non. Non, mais c'est intéressant ce que disait le dernier témoin. C'est vrai qu'il y a la grossesse avec l'enfant qui est dans le ventre de la mère. Il y a ce rapport. Ensuite, quand l'enfant naît, plus tard, quand il grandit, soit le père est effectivement présent et il y a l'équilibre avec la mère. Ou sinon, plus tard, il y a aussi cette confrontation avec le père. Il y a un truc particulier dans l'adolescence. Moi, ça a été mon cas.
Au-delà de ça, je trouve que la question que ça pose, cette inversion de la maternité, en fait, c'est la question du modèle de société. J'y reviens, mais est-ce que Pauline Aubry, vous pensez pas que ça changerait fondamentalement le rapport, les rapports de genre, les rapports entre les hommes et les femmes, si c'était les hommes qui portaient les enfants?
C'est vrai, mais déjà je trouve que ça s'est modifié parce que quand on analyse le rapport qu'avaient nos parents, enfin moi ma génération des années 80, mon père il s'est jamais occupé de moi d'un point de vue logistique. Alors que mon mari, il est à 50-50. Donc je pense que déjà, l'homme, il va un peu plus se positionner. Il est moins le père qui rentre du travail et qui pose ses sacoches et qui met les pieds sur la table.
50-50 la répartition des tâches ménagères dans votre couple.
Ah, ça peut même être 70-30, hein.
Bon, Pauline a déjà commencé à faire RFUS dans sa propre maison, c'est formidable. Le monde est à nous, on continue d'imaginer à quoi ressemblerait notre monde sur RFUS, donc cet astéroïde qu'on s'apprête à rejoindre dans moins de 20 minutes maintenant. Et Lou, ministre du Cœur, tu as une proposition à faire pour RFUS.
Oui, moi j'aimerais un monde où toutes les relations soient possibles et acceptées. Qu'on puisse aimer un homme, une femme, s'aimer à deux, à trois, à dix, construire la communauté familiale qu'on veut et avec qui on veut. Ce qui m'a inspiré ça, c'est Aurélien, Rachel et Pauline. Ils vivent ensemble sous le même toit, dans le 19e arrondissement parisien. Ce sont tous les trois des polyamoureux, c'est-à-dire qu'ils ont plusieurs relations amoureuses en même temps. Et avec Philippine, ils nous ont invités à prendre l'apéro chez eux.
Là, la pièce principale, qui est une des parties communes de l'appartement. On a notre très grande bibliothèque. Comme vous pouvez le voir, on a chacun notre chambre, parce qu'on n'a pas opéré une fusion au moment d'habiter ensemble. Donc on a aussi notre indépendance et nos espaces considérés comme des espaces privés. J'ai une relation amoureuse avec Rachel et j'ai une relation amoureuse avec Pauline. Rachel et Pauline s'aiment bien et s'estiment et habitent ensemble, mais ce n'est pas une relation amoureuse dans laquelle il y aurait une relation triangulaire. Chacune d'entre nous a plusieurs relations et toutes les personnes impliquées le savent. Toutes les personnes impliquées connaissent les autres.
Et la plupart de nos autres relations ont eux-mêmes d'autres relations.
Tout à fait.
Mais du coup, moi je voulais vous demander comment vous faites pour gérer le temps.
Il se trouve qu'il y a un outil formidable qui s'appelle Google Calendar. Nous utilisons donc les calendriers Google pour pouvoir organiser les soirs où on se voit, où on voit d'autres personnes, se tenir au courant, etc. C'est comme ça que je sais qui je vois, quel jour, ce qu'on fait, à quelle heure.
Pourquoi finalement c'est mieux pour vous la configuration polyamoureuse?
Qu'est-ce que ça vous apporte?
Ouais. Si on a déterminé que c'était l'exclusivité, je suis obligée de faire un choix entre lequel j'aime le plus, lequel... Enfin voilà, c'est... Donc ça m'apporte ça.
Un couple traditionnel qui vit ensemble, donc qui n'a qu'une chambre pour deux. Si un jour quelqu'un ressent le besoin de pouvoir passer une nuit de sommeil seule, c'est une récrimination qu'elle va entendre jusqu'à la fin de ses jours, ou la fin de sa relation, quoi, le jour où il a fallu dormir sur le canapé. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, c'est pas toi, j'ai juste besoin. Dans mon emploi du temps, alors je prévois... une, deux, trois nuits par semaine avec Pauline, une, deux nuits par semaine avec Rachel. Puis il y a au moins une nuit par semaine avec moi, juste moi. Et c'est important que je me respecte là-dessus, en fait.
Pauline, tu as mentionné tout à l'heure les clichés que les gens extérieurs ont sur le polyamour. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Ça donne souvent, ah, ça veut dire que tu couches avec tout le monde, ah, ça veut dire que t'es tout le temps disponible, t'as tout le temps envie qu'on te drague, bien t'es pas capable de t'engager, c'est pour ça que tu choisis d'avoir plusieurs personnes. Il y a beaucoup de clichés assez négatifs.
Et alors justement, sur cette question du regard de la société, en particulier du regard de vos proches, comment ça s'est fait, l'officialisation de cette relation que vous avez tous les trois?
Quand j'en ai parlé à ma mère, elle a fait oh, « Mais c'est comme les hippies, mais en mieux !» Elle était très contente et très fière de moi.
Lou, notre ministre du cœur.
Alors Pauline Aubry, à quoi ressemblerait la famille sur RFU si on était tous des polyamoureux selon vous?
Ça veut dire qu'on laisse tomber la question de l'appartenance. Enfin, moi je trouve que sur le concept, le polyamour, c'est très joli. Mais je pense que dans la réalité, c'est à peu près assez difficile à mettre en place parce qu'il y aura toujours un qui sera très malheureux, je pense. Et que c'est un peu ce que les hippies ont essayé de faire, c'est un peu les sociétés imaginaires comme ça, mais moi j'y crois pas.
Moi ce que je voudrais juste souligner sur le témoignage qu'on vient d'entendre, c'est quand même que ce sont des gens qui sont, ont l'air en plein de liberté, hein, puisqu'ils choisissent ils choisissent de pouvoir faire ce qu'ils veulent, donc ils ont l'air très libres, et en même temps, ils ont un peu du temps quand même qui est très, très enfermant.
Moi le côté Google Calendar, c'est l'anti-spontanéité, c'est, ça j'adhère pas du tout, quoi.
Donc du coup, est-ce qu'il y a des schémas familiaux indispensables à importer sur RFUS ou alors est-ce qu'on peut se libérer définitivement de cette cellule familiale?
Vous qui êtes mère de famille.
Bah, en fait, moi là où je te rejoins, c'est que je trouve ça bien que ben, les gens puissent s'aimer librement. C'est-à-dire que, bah, voilà, effectivement, s'il y a des gens qui ont la démarche de s'aimer à trois, de s'aimer entre femmes, de s'aimer entre hommes, qu'ils puissent le faire et que ça n'ait pas un regard négatif d'un point de vue sociétal. Mais par contre, après... je pense que d'un point de vue, l'être humain est fait pour quand même aimer une personne et il va forcément être blessé si l'autre va ailleurs. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon vécu, quoi.
sommes et tous les mêmes. Macho, mais tu, bon de ma vie est infidèle. Si prévisible, non, je ne suis pas certaine que tu le mérites. Avez de la chance que vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
Tous les mêmes, Stromae sur RFI.
Décollage dans 15 minutes.
Le Monde est à nous décolle dans moins de 15 minutes à destination de l'astéroïde Erephus. Avant le départ, les ministres réunis prennent conseil auprès de nos deux vénérables sages, Rachid Santaki et Pauline Aubry, pour imaginer le nouveau monde.
Et notre ministre du corps généreux, c'est Kaina.
Sur notre planète Erephus, on a décidé de tout partager et on a donc voulu pousser la logique à l'extrême et vraiment tout partager, même nos organes. Aujourd'hui en France, plus de 20 000 malades atteints d'un don d'organes. Moins d'un tiers auront une greffe parce que les dons sont trop rares. Iloé, une amie de Thomas, est prête à prendre sa carte de donneur. Thomas l'a retrouvée alors qu'elle écrivait une lettre à ses parents pour leur annoncer sa décision.
Alors, comment annoncer que je donne mes organes? Ah voilà, lettre type... actuellement en bonne santé, je souhaite toutefois que si un grave accident m'arrivait, souhaite effectuer un don d'organes, ouais, non, laisse tomber. Chère maman, cher papa, j'espère que vous allez bien. Ici, dans la capitale, tout va bien, tout est calme avant l'été. Je vous écris depuis mon salon pour vous annoncer quelque chose. C'est un peu sérieux, donc je préférais vous l'annoncer par écrit. Mais c'est important pour moi que vous le sachiez. J'ai beaucoup réfléchi. Et certains sujets me sont devenus moins tabous. Je suis libérée des codes, libérée des peurs que les autres avaient. C'est ainsi que j'ai décidé de donner mes organes. Voilà. Non, ça va pas. Je me suis libérée des codes, libérée des peurs que les autres avaient. C'est un sujet qui pourrait sembler tabou. Ouais, c'est bien ça. Je pense qu'il est temps pour moi de vous l'annoncer. Je voudrais donner mes organes. Alors maman, je te rassure, ma crise d'ado est bien finie depuis longtemps et puis... Papa, t'inquiète, hein, je ne prends pas de drogue. Dans ce monde qui se métamorphose rapidement, je trouve pas ça normal de pas pouvoir en parler librement et de prévoir ces choses-là, même à 22 ans. Bon, je pense qu'ils ont compris, là. Mais vraiment, maman, papa, ça compte pour moi, donc ne prenez pas ça à la légère. J'espère que vous me comprendrez et que vous ne me jugerez pas pour ce choix. Je dois vous laisser, j'ai mon cours d'aquaponie. À très bientôt, ma petite maman, mon petit papa. Je vous embrasse fort. Iloé. Non, ça va pas, ils vont trop flipper. Je vais appeler pour leur dire, ce sera beaucoup mieux. Allô maman, t'es avec papa?
Kaina, notre ministre du corps généreux.
Justement, moi, j'aimerais bien donner mes organes, mais je suis musulmane et la question du don d'organes fait débat parmi les théologiens musulmans. Vous, Rachid Santaki, seriez-vous prêt à donner vos organes?
Ben, pareil, c'est une question...
religion?
Ouais, de religion, et si ça peut sauver une vie, pourquoi pas, mais ça se discute et faut consulter les bonnes personnes pour ça.
Ouais.
Tout simplement.
Donc pas de réponse simple.
Voilà.
Sur RFU, ce serait plus simple ou pas?
Bah sur RFUS déjà il y a des mecs enceintes, il y a des fourmis qui parlent, donc c'est un nouveau
tout
monde.
Ce serait plus simple.
Ouais. Enfin plus simple, je sais pas, parce que c'est peut-être simple au départ, mais après dans la continuité, est-ce que c'est viable, durable, c'est...
Ah, pour vous il faut revenir un peu aux traditions.
Non, pas forcément traditions. Faut surtout se dire quelles sont les bases qui nous permettent d'avoir un socle et pouvoir avancer de manière durable. Voilà, c'est ça, et que tout le monde ait sa place.
Vous, Pauline Aubry, le don d'organes ?
J'avoue que quand j'ai écouté Kaina, je me disais, c'est vrai, je pourrais faire ces démarches-là. Je suis athée, donc je n'ai pas de problème par rapport à ça. C'est plus que je n'ai pas fait la démarche, donc c'est vrai qu'il faudrait y penser.
Mais justement, hein, maintenant, en fait, si on ne fait pas une lettre entre guillemets de décharge, vos dons, je crois que vos organes sont donnés automatiquement.
Hein. Ah d'accord, bon, ouais.
Donc voilà, tant mieux pour vous.
Avec l'accord de la famille.
Oui, voilà, bien sûr, oui, oui, toujours. Il faut leur dire, ouais, voilà, ça, il faut leur dire. Faut dire.
Oui, mais c'est même, là par exemple, je pense à ça par rapport à, aux attentats et tout, avec mon mari, on se disait, il faudrait qu'on fasse une lettre à nos enfants au cas où nous arrive un truc. Mm. Et c'est des choses auxquelles on n'a pas, on se confronte pas parce que ça nous dit qu'on va mourir en fait.
Non, mais c'est ça, c'est vrai, c'est dur. Ouais.
Justement, la question de la mort, Thomas. Toi, tu es le ministre de l'Aftervie et tu as une proposition à faire à ce sujet pour RFUS.
Exactement, parce que pour ma part, la mort, bah, ça ne me fait pas peur. J'ai de la famille et des amis proches qui sont morts jeunes. Mais j'ai remarqué qu'autour de moi, c'est encore compliqué d'en parler et ça reste hyper tabou encore. Alors pour dédramatiser tout ça et pour que les gens aient moins peur de l'afterlife, sur RFUS, on voudrait proposer une offre de cercueil fun et futuriste. Alors avec Lou, on a imaginé à quoi ça ressemblerait.
Bonjour Lou, voici votre courrier.
Bah alors Lou, t'en fais une tête.
Non mais regarde Toto, on a reçu le dernier numéro de Mortellement Hebdo.
Oh, trop bien, la nouvelle collection de cercueils 2086. Vas-y viens, on le feuillette.
Ah, mais non, mais pourquoi, c'est trop glauque. Tu veux qu'on choisisse notre cercueil maintenant? Le truc qui va contenir tout ce qu'on aura été.
Non mais je t'assure Loulou, c'est trop pas glauque, c'est trop in. C'est hyper tendance et tout le monde le fait maintenant. Non mais regarde celui-là, le numéro 34. C'est une poche d'eau qui s'accroche dans un arbre et tu peux être suspendu avec tes potes. Moi je trouve ça cool.
Mais c'est pas un peu trop intime ça? Et puis qu'est-ce qui se passe si tu reviens à la vie une fois dedans?
Ok, ben on va chercher autre chose.
Oh là là, regarde ce cercueil-là. Il est en verre, il est climatisé, donc super pour la peau. Et il y a une fontaine à eau. Comme ça, aucun problème d'hydratation.
C'est un peu chelou, là.
Bah non, justement, imaginons que je me réveille. Et bah, je pourrais faire des signes aux gens à travers la vitre et les alerter.
Mais du coup, dans la terre, tu ferais comment?
Bah attends, il y a l'option enterrer debout. Avec la tête qui dépasse, et comme ça, bah si je me réveille, c'est parfait. Et puis au pire, il y a toujours le bouton réveil d'urgence, regarde.
Ah oui, mais il est super cher.
Ouais, j'avoue.
Mais là, pour deux cercueils de luxe achetés, t'as un catapultage offert.
Un catapult quoi?
En gros, il catapulte ton corps dans l'espace et il explose en plein air.
Comme de la poussière d'étoiles? Mm-hmm. Mais attends chérie, on peut aussi se faire enterrer ensemble comme les voisins du cinquième.
Ah oui, je m'en souviens. Ils avaient un super cercueil en forme de cœur, le tout en porcelaine.
Et tu te souviens de la playlist de Lover qu'ils s'étaient fait faire installer?
Ouais, c'est vrai.
Mais du coup, tu serais partant?
Bah pas trop, tu sais, le loup, on en a déjà parlé, moi je suis plutôt solitaire. Je vais être en symbiose avec la nature, tu comprends? Je vais être éco, cosmo, potageau-friendly.
Mais tu crois qu'ils ont ça?
Bah faut qu'on regarde. Alors, cercueil, high-tech, musical, non, volant, non. Ah, cercueil biodégradable, page 308.
Ouais bah c'est l'option boîte en carton quoi.
Mais non, c'est parfait. Regarde ce qu'ils disent, c'est une sorte de carton intelligent que l'on pose comme un nid sur des branches d'un arbre. Le carton, il est biodégradable, et une fois que ton corps s'est décomposé, ça libère des graines sur le sol.
Mais des graines de quoi?
Bah c'est un choix à la carte. Une fois que ma poussière tombe, bah ça crée de l'engrais et ça pousse de partout. Perso, des citrons, du cerfeuil et des figues, bah moi ça me plairait bien.
Mais du coup, tu te placerais où? Parce que moi je veux quand même être à côté de toi.
Bah moi j'avais pensé à la forêt juste derrière la maison, près de la cascade et de la clairière, tu vois.
Ah oui, il y a beaucoup de lumière, les oiseaux chantent, c'est paisible.
Ça te dirait pas, Loulou, qu'on aille faire du repérage mardi prochain? Moi, je choisirais un bel arbre, et toi, tu choisiras une jolie parcelle, juste en dessous.
Ok, chaton, faisons ça.
Bah, tu vois que ça fait pas si peur que ça de penser à son futur.
Thomas, notre ministre de l'after-vie.
Vous, Pauline, quel type de cercueil vous choisiriez?
J'aime bien l'idée du biodégradable, avec peut-être des gens qui pourraient dessiner dessus. J'aimais bien le cercueil de Tinius avec tout le monde qui avait dessiné dessus. Je trouvais ça très joli.
Teen Youth, ouais. Donc
dessinateur
de Charlie Hebdo.
D'accord. Et pas plus fantaisiste, enfin, si vous pouviez, vous, vraiment créer un cercueil à vous. Vraiment.
Ah, si moi je devais le créer. Non, moi, il y a une tradition que j'aime bien. Au Mexique, ils ont des tombes avec plein de décorations, un peu comme s'ils recréaient une pièce. Il y a pas mal d'objets personnels, mm-hmm. et tout, un peu côté pharaon aussi, quoi, où on va pouvoir emmener ses objets personnels. Moi, j'aime bien, j'ai plein de bibelots chez moi, si je pouvais les amener, ça m'intéresserait.
Et d'ailleurs, dans votre livre, vous exprimez les angoisses de la mort à l'âge adolescent. Est-ce que vous pensez que sur RFUS, il faut parler de la mort?
Je sais pas, je pense que c'est un moteur. Après, moi, c'était mon moteur. Enfin, disons que, comme j'avais toujours très très peur de mourir, mais ça se manifeste par des angoisses. C'est vrai que c'était très difficile à faire comprendre aux autres, parce que finalement, on a tous peur de mourir dans l'absolu. Mais est-ce qu'il faut en parler?
Est-ce que ça vous aurait moins angoissé si, adolescente, alors que vous aviez ces angoisses de mort, on parlait de la mort plus facilement dans
librement,
le quotidien?
Sans tabou.
Est-ce que ça vous aurait eu moins peur?
Non, c'est pas ça. Moi, j'ai peur de pas exister. J'ai pas peur de mourir en soi. J'ai peur de plus exister, quoi. De rater toutes ces choses que j'aurais pu faire, en fait. Et en fait, ça m'est arrivé quand j'étais en prépa, parce que quand je préparais Sciences Po, j'avais un gros bouquin qui s'appelait Toute l'histoire du XXe siècle, et derrière, il y avait marqué 29 000 et quelques jours de sang et de guerre, je sais pas quoi. Je me suis dit, putain, là, un siècle, c'est 29 000 jours, mais c'est rien la vie, en fait. Ça se trouve, je vais même pas vivre 29 000 jours. Et ça m'a créé des angoisses de malade. Et après, j'avais une grosse dépression, enfin, pour d'autres trucs. Mais voilà, en gros, c'est la peur de pas exister, quoi.
Le monde est à nous, voici venu le moment de la minute de Pépé.
Chaque dimanche, un jeune de l'équipe rencontre un grand-père pour lui demander comment c'était à son époque et quels conseils il pourrait donner aux jeunes d'aujourd'hui.
Philippine et Thomas sont allés rencontrer Yves, le grand-père de Thomas.
Alors, les parents ou autres, moi c'est des vieux cons la plupart du temps. Ah, tu sais, à mon époque, oui alors. Mais c'est le présent qui compte pour les jeunes.
Alors grand-père, est-ce que tu aurais voulu vivre dans un autre monde?
Ah non, absolument pas. Je suis très satisfait de la vie que j'ai eue dans celui-ci. Et avec quelques retouches, le monde tel qu'il est... me convient, avec les saisons, avec les fleurs, les petits oiseaux, etc., me convient très bien. Non, je n'aurais pas voulu vivre dans un autre monde, ni dans un autre pays d'ailleurs.
Mais est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu changer dans le monde et qui fait qu'il serait meilleur?
Mais bien sûr, il n'y a pas de doute. J'ai fait 68, j'en garde un excellent souvenir. Il y avait des assemblées générales qui commençaient le matin à 7h, n'est-ce pas? Et sans fin jusqu'à minuit. Tout le monde se réunissait et puis chacun prenait la parole, hein. Et elle disait ce qu'il avait à dire, proposait ce qu'il avait envie de proposer. On rêvait d'un monde meilleur, là, déjà. L'égalité homme-femme dans les salaires, moins de travail, davantage de distractions, etc. On a voté un peu de tout, quoi. Un peu trop, peut-être. Et puis, comme 9/10 des propositions adoptées, aucune n'a abouti. Mais ça, il faut savoir rêver. Mais nous avons rêvé pendant un mois et quelques.
Est-ce que si vous réinventiez une planète, ce serait ça la forme de gouvernement? Est-ce que toutes les décisions seraient prises par des assemblées comme ça locales où tout le monde peut parler et proposer des choses?
Non, je crois que non. Il faut avoir des délégués. Je crois que l'Assemblée Générale est démagogique et n'engage personne en définitive. Donc il faut des délégués qui s'engagent et qui désignent des délégués.
Est-ce que tu conseillerais à nous, aux jeunes, de changer de monde?
Non, je ne vous conseille pas de changer de monde. Je conseillerais de vous adapter, de faire avec. Changer de monde, c'est fuir. Non, je suis contre la fuite. Je suis pour s'adapter, pour tirer le maximum de bien et de parti de ce que l'on a. Je crois que le monde sera sauvé d'abord par chacun d'entre nous. Je crois que c'est à nous à bien nous comporter dès le départ. Et puis en l'éduquant, surtout, hein, l'éducation. Hein. Ça, c'est sûr que l'éducation est primordiale.
Rachid Santaki, Pauline Aubry, il ne reste plus qu'une poignée de minutes avant que notre fusée ne décolle pour RFUS. Donc le moment est grave. Cher vénérable sage, voici le moment de nous donner votre avis. Est-ce qu'on part sur RFUS alors ou est-ce qu'on reste sur Terre?
Moi je crois qu'on ne trouvera jamais un endroit aussi riche et impressionnant que là où on vit, quoi. Moi je comprends pas que... Là, par exemple, il y a eu la COP21 en décembre et je comprends pas que depuis on en parle. Alors on a plein d'autres problèmes, hein, mais finalement... Moi, je trouve le problème du XXIe siècle, c'est ça, c'est comment on va pouvoir continuer à vivre sur cette planète, comment on va essayer de préserver toute cette diversité qu'on a mis à mal, mais qui peut renaître, parce qu'en fait, la nature sera toujours plus forte que nous, et que c'est nous qui allons perdre au jeu, quoi.
Donc vous, Pauline Aubry, vous vous prononcez pour rester sur Terre, et vous, Rachid Santaki, partir ou rester?
Je suis fan du grand-père parce que je rejoins complètement son avis. Non, mais vraiment, de se dire, on n'est pas obligé de fuir aussi. On n'est pas obligé de fuir. Faut les obstacles, faut aussi les affronter. La fuite, le retrait, c'est pas une bonne solution.
Merci Rachid Santaki, Pauline Aubry de nous avoir accompagnés dans notre dernière du Monde est à nous.
Vous pouvez retrouver les podcasts de nos 8 émissions sur la page du Monde est à nous sur le site de RFI, mais aussi sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et Tumblr.
À tous les jeunes qui ont participé au Monde est à nous, Lou, Oumar, Kaina, les deux Pauline, Xavier, Geneviève, Thomas, Philippine, Fanny, Calypso, Anaïs, Fabien, Donia, Clara, Maud et Alexandre, merci pour votre enthousiasme, votre humour, votre créativité, votre folie et votre énergie.
Merci aussi à Pascal Paradou de nous avoir fait confiance pour ce projet. Merci à Simon De Creuse, Romain Dubrac, Dora Jaffel, Aurélien Évrard. Et merci à Majid, Pascal et Monica des bandes annonces. Merci aussi à Manuela et Charlotte.
Et évidemment, un immense merci à Victor Hull, notre réalisateur, pour sa créativité.
Sa patience
et sa bienveillance.
Merci à vous, Pauline. Merci à vous et merci surtout à vous, les auditeurs, de nous avoir accompagnés tout l'été.
Et n'oubliez pas que le monde est à nous.
Le monde est à vous. Salut à tous.
Bye.
Venez partager.